au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Michel Bèze, bonjour.
Bonjour Bertrand.
Vous êtes peintre officier de la marine, vous êtes le président de cette association. On y a un corps, le corps des peintres de la marine, le groupe des peintres de la marine, l'association des peintres officiers de la marine, un certain nombre de terminologies. Toujours est-il que vous êtes rattaché à la marine et que votre passion, votre activité, tous ces peintres, on dira qui ils sont et combien sont-ils, tournent le pinceau à l'eau de mer, comme dirait l'un des vôtres, Marin Marie.
Effectivement, nous sommes des peintres de la marine et nous sommes regroupés de diverses façons. Mais c'est très simple, au fond, nous sommes nommés par le ministre de la Défense sur proposition du chef d'état-major, qui lui-même a reçu une proposition du président du jury du Salon de la Marine, qui se tient au musée de la Marine tous les 2 ans. Donc, nomination à titre individuel, être peintre de la marine, c'est d'abord un titre, un privilège, un honneur. L'ensemble de ces personnalités nommées à titre individuel forment un corps, comme dans beaucoup d'armes. Et puis, il s'est avéré avec le temps qu'il était nécessaire que les peintres se regroupent sous une autre forme, en l'occurrence une association, type loi 1901, afin de défendre l'idée de peintre de la marine, promouvoir le corps, pouvoir faire des expositions, des éditions, toutes choses qui concourent à développer ce que nous sommes.
Mais la tradition des peintres de la marine est quand même très ancienne parce que, non loin d'ici, du Quai Canty, de l'Académie, il y a une petite rue qui s'appelle la rue Jean Callot. Et on pourrait considérer que Callot, donc, était un illustrateur donc, du XVIIe siècle, serait peut-être l'un des premiers peintres officiels de la marine, puisque Richelieu lui avait demandé de dessiner et graver le siège de La Rochelle.
Absolument. Alors Callot, nominativement, ce n'est peut-être pas le premier, mais c'est certainement le plus connu. La tradition des peintres de la marine remonte à Richelieu. Richelieu, grand ministre, crée une flotte. Envoie les bateaux outre-mer, tout démarre avec lui pour la mer en France. Donc, on connaît Jacques Callot. On ne le connaît pas, je dirais, spécifiquement pour ses œuvres de marine, mais il y a largement contribué. La tradition s'est amorcée à ce moment-là que la marine emploie des artistes, pas uniquement des peintres, il y avait des graveurs, il y avait des sculpteurs, ne les oublions pas, à l'époque, dans la conception et la décoration de nombre de bateaux, les sculpteurs avaient un grand rôle à jouer. Ces artistes, non seulement ont contribué à fabriquer des bateaux, à tracer leur mémoire, mais aussi se sont mis à embarquer, à participer à des expositions plus ou moins lointaines, la découverte des nouveaux mondes. Donc, ils existaient dans la forme avant la lettre. On n'avait pas de statut particulier, il n'y avait pas de reconnaissance spécifique. Et il faudra, pour que la chose soit officialisée, attendre la monarchie de Juillet, c'est-à-dire 1830.
Donc auparavant, nous avons des noms comme les Hausanne qui ont peint tous les ports de France. Et nous avons Puget, nous avons Vernet, nous avons un certain nombre de peintres et d'artistes. Et alors vous parliez à l'instant de titres et je ne sais plus lequel préférait, plutôt que d'être peintre de la marine, préférait être peintre ordinaire de la chambre du roi ou un titre à peu près comme cela. Il valait mieux peut-être être près du roi que d'avoir un titre marine.
C'est affaire personnelle, je n'en discuterai pas. Ce qui caractérise les peintres dits de marine, c'est leur passion pour la mer. Ils cherchaient plus la réalité de la mer, le contact avec la mer, qui très très longtemps ne fut pas connue. Elle était connue des gens qui habitaient près des côtes, mais elle n'était pas connue des rois, elle n'était pas connue de la cour. Donc je ne crois pas que l'on puisse accuser un quelconque peintre de la marine d'avoir cherché d'abord la familiarité des puissants. Leur recherche, leur quête première a toujours été celle de la mer.
Alors pourquoi officialiser tout d'un coup en 1830, en nommant deux il y en avait deux qui ont été nommés pour la première fois, donc dans l'annuaire de la marine, l'annuaire officiel, pour la première fois en 1830, donc Gudin d'abord, comme peintre officiel, c'est bien le terme, donc de la marine.
Je ne connais pas la raison intrinsèque de cette nomination. En fait, c'était ce peintre a reçu le titre de peintre du grand amiral de France, je crois. Ça correspondait à, de toute façon à une réalité et peut-être à une volonté de donner un statut à ces marins qui n'étaient pas des, à quelques exceptions près, Garneret en est une, qui n'étaient pas des marins de la marine de guerre, mais qui étaient beaucoup plus que des marins d'eau douce, puisqu'ils vivaient avec les marins. Nous vivons encore aujourd'hui cette situation, mêlée, mixte. Nous sommes des frères d'armes, des marins, et en même temps, nous ne sommes pas des militaires. Et ça apparaît clairement dans notre statut. Donc, c'est peut-être pour leur donner une place à bord, tout simplement.
C'est excellent parce qu'aujourd'hui, toujours, donc, on vous fait une petite place à bord, mais vous pouvez y aller quand vous voulez. Votre statut vous permet d'embarquer sur des bâtiments où vous voulez, quand vous voulez, et n'importe quelle époque.
C'est un de nos privilèges, effectivement, c'est de pouvoir participer à des missions, donc d'embarquer, de travailler dans les ports et arsenaux de la Marine nationale. Alors, on n'exige rien. On nous propose beaucoup, beaucoup plus que ce à quoi nous pouvons répondre. Ou alors, on peut être invité directement par un des commandants ou quelqu'un de l'équipage avec l'accord du commandant. Mais tout ça se fait en très bonne intelligence.
Donc vous êtes très sollicité par la marine.
Oui, si je vous donne quelques chiffres tout simples, pour un semestre, nous avons reçu le dernier semestre une proposition pour une soixantaine d'embarquements, en sachant que nous sommes 42 peintres actuellement, qu'un certain nombre d'entre nous sont âgés ou très âgés et donc n'embarquent plus. Vous imaginez, il faudrait que nous fassions deux embarquements par semestre. Ça me paraît difficilement réalisable.
Donc c'est un pinceau. Alors justement, comment devient-on peintre officier de la marine? Parce que je sais que c'est un titre très convoité. On dira après, on énumérera quels sont les privilèges. On vient d'en connaître un, le fait d'embarquer et d'être sollicité. Comment devient-on peintre de la marine? Est-ce qu'il y a un processus? Est-ce qu'il y a une marche? Comment ça se passe?
Il y a effectivement une marche à suivre qui est assez classique. Il faut d'abord être un artiste qui s'est intéressé de façon notoire au monde maritime, quelle que soit sa forme, sous toutes ses apparences. Il faut pour cela ensuite participer au Salon de la Marine qui se tient au Musée de la Marine à Paris, au Trocadéro, tous les deux ans. Alors ce salon, nous avons cette année le 40e, donc à près d'un siècle d'existence, est toujours présidé par un officier général, avec un jury d'une quinzaine de personnes au profil très varié, mais lié au monde de la mer. Et à l'issue du salon, ce jury décerne des récompenses, des médailles, des félicitations, et nomme des peintres de la marine, s'il le souhaite, en fonction des places disponibles. Alors pour rentrer un petit peu dans le détail, nous sommes une quarantaine, on peut être moins, on peut être un petit peu
c'est
plus.
C'est un numerus clausus ou...
Pas exactement, parce qu'il y a deux niveaux chez les peintres de la marine. Il y a tout d'abord les agréés qui sont nommés pour 3 ans renouvelables, sinédiés. Et puis au bout de 4 renouvellements, ou si on a l'âge de 60 ans, on peut être titularisé, donc nommé à vie. Seul le nombre des agréés est limité au nombre de 20.
Il
arrive, peut y en avoir autant qu'on peut. Oui. Mais on s'en tient au chiffre de 40, qui est celui classique des académies, des grandes académies, et parce qu'il est équilibré, et que je vous le disais il y a un instant, en fait, nous sommes moins à être opérationnels.
Mais il arrive que des peintres agréés soient remerciés ou ne pas renouvelés.
C'est malheureusement arrivé, pas très souvent. Alors, à ma connaissance, il y a un peintre de la marine qui a démissionné après-guerre parce qu'il sentait qu'il n'avait pas exactement sa place ou que ça ne correspondait pas à ce qu'il attendait. Mais c'est un cas exceptionnel. Il y a eu 2 exclusions après la guerre, la libération pour fait de collaboration. Et puis c'est à peu près tout. Nous avons actuellement un cas un petit peu sensible de quelqu'un qui a un comportement moyen dont on se demande si on va le renouveler son agrément. Mais la marine est très fidèle à ses peintres comme ses peintres lui sont fidèles.
Une fois que le peintre est agréé ou le peintre est confirmé, donc il a le droit au port d'un uniforme d'officier de marine.
Voilà, nous avons un rang d'officier. C'est-à-dire, quand on est agréé, on a une équivalence de grade de lieutenant de vaisseau.
C'est-à-dire 3 galons.
Autrement dit capitaine. Quand on est titularisé, 1 galon de plus, donc on a rang de capitaine de corvette. Alors ça, ce sont des commodités, je dirais, qui font que, selon le grade, on est affecté à des carrés différents. Donc c'était une formule pratique dans la réalité, vu le grand âge de mes confrères. En fait, ils sont considérés un petit peu comme des officiers supérieurs systématiquement. Donc nous avons la possibilité de porter l'uniforme. Je recommande à mes confrères qui embarquent de le faire parce qu'ils sont comme ça beaucoup mieux intégrés à l'équipage, qui ne sait pas très bien ce que sont ces êtres qui portent un uniforme sans galon.
Est-ce qu'on vous dit bonjour mon père ?
Ça nous est arrivé de nous prendre pour des aumôniers ou les bohutes, comme on dit à bord. Et c'est même parfois un sujet de plaisanterie assez classique. Donc, recommandation de porter l'uniforme, parce que comme ça, on n'est pas un civil au milieu des militaires. Nous sommes partie prenante, je dirais, même si nous n'avons aucune obligation de service. Nous avons une carte d'identité militaire, et donc on ne porte pas de galon, puisque nous ne sommes pas militaires.
Comment vous appelle-t-on à bord ?
Traditionnellement, on nous appelle maître, ce qui est dans l'appellation classique dans les académies de peinture, autrefois, mais qui dans la marine ne choque pas, puisqu'il y a des quartiers maîtres, des second maîtres, des premiers maîtres, des maîtres principaux. Donc on est tout à fait dans l'ambiance.
Donc vous êtes des maîtres hors cadre ?
Oui, je n'y avais jamais songé, mais je vais diffuser.
Diffuser, donc il n'y a pas de confusion. Donc vous êtes sollicité, comme on vient de le dire, mais avez-vous des missions spécifiques ? On vous sollicite, mais pourquoi vous sollicite-t-on ? Donc on peut imaginer l'état-major ou un pacha ou le pacha d'un bâtiment vous sollicite pour un embarquement. Pouvez-vous demander quelque chose de particulier ?
C'est arrivé, effectivement. Si en cas de conflit, en cas de guerre, on a le statut de correspondant de guerre. Donc, l'état-major peut très bien prendre un peintre de la marine pour qu'il témoigne d'une situation conflictuelle dans laquelle serait un de ses bâtiments, dans lequel il serait engagé. C'est arrivé avec, par exemple, il y a une dizaine d'années, avec Serge Marco, qui est allé sur le Jean de Vienne, passer un mois au moment de la guerre du Golfe.
La première guerre du Golfe.
Voilà,
Il en a rapporté
mieux qu'un carnet de croquis. C'est une série de planches tout à fait intéressantes sur les activités opérationnelles d'un bâtiment de guerre et de son équipage.
Oui. C'est un petit peu l'imitation des Américains et des Anglais qui, eux, ont des peintres de guerre, ont un statut particulier, qui les suivent régulièrement.
Oui, alors les anglo-saxons ont pris un parti opposé aux Français, c'est-à-dire que ce sont des gens soit d'active, soit de la réserve, qui sont aussi des artistes. La marine française a fait le contraire. Ce sont des artistes qui peuvent éventuellement participer à des activités de guerre.
Parce qu'autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, dans la besace des fistos, des élèves de l'école navale qui faisaient le tour de la Jeanne, enfin avant la Jeanne, les précédents, ils devaient de remettre un carnet de croquis.
Avant la Jeanne, c'était déjà une Jeanne. Donc, et avant la Jeanne, ça devait être un Borda.
C'était un Borda, oui.
Voilà. Donc, il y a eu l'enseignement du dessin à l'école navale jusqu'en 1940, avec la débâcle, beaucoup de choses ont changé. Et j'avais eu le plaisir et l'honneur de remettre ça au goût du jour. J'ai embarqué pour deux campagnes de la Jeanne d'Arc, deux années successives, où je faisais à bord un enseignement sur, je dirais, l'analyse de l'image, que ce soit l'image faite ou l'image que l'on voit au quotidien, et puis accompagné d'un enseignement de dessin. La première année, c'était obligatoire. Je m'étais aperçu que c'était une erreur. La seconde année, c'était facultatif et ce fut une réussite. Alors, ça ne s'est pas perpétué. Moi, je ne pouvais pas. J'avais des enfants petits à l'époque. Je ne pouvais pas partir chaque année pendant plusieurs mois à travers les océans. C'était un petit peu difficile pour mon épouse. Alors, ça ne s'est pas perpétué exactement comme ça, mais il continue à y avoir des embarquements de pins de la marine sur la Jeanne d'Arc et qui, à l'occasion, donc, montre aux officiers et élèves ce qu'est le dessin, autrement dit, à travers le dessin, ce que c'est que de voir.
Donc, autrement dit, ce qui est quand même nécessaire pour les officiers de marine qui sont obligés de voir. Mais la vue est un élément principal.
Oui, on pourrait imaginer que les radars remplacent tout, mais non, la vie à la mer ne peut pas oublier l'œil, d'autant que les radars peuvent mal voir ou ne plus marcher du tout. Ouais.
Alors, parmi tous ces peintres, donc une quarantaine, il y a une grande diversité de styles, d'intérêts toujours tournés vers la mer et la marine. Je crois savoir que dans votre association, vous avez deux académiciens membres de l'Institut, Arnaud Dautriff, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, et puis
Yann Arthus Bertrand,
qui vient d'être élu à l'Académie des Beaux-Arts également.
Exactement. Arnaud Dautriff est peintre de la marine depuis déjà de longues années, est très attaché à notre corps et nous en témoigne régulièrement, nous témoigne régulièrement de son attachement. Et Yann Arthus Bertrand a été nommé il y a 2 ans et donc on a eu le plaisir de connaître son élection récente à l'Académie des Beaux-Arts comme photographe. Alors que ce soit pour moi l'occasion de rebondir en vous disant que chez nous il n'y a donc pas uniquement des peintres. Il y a aussi un graveur actuellement, malheureusement l'autre est décédé. Nous avons 2 sculpteurs, et puis alors bon, les diverses formes d'expression en matière de peinture sont représentées par les uns et les autres. Nous avons 3 photographes, et j'aimerais bien que nous rejoigne, sinon un cinéaste, quelqu'un qui fasse de la vidéo, de l'image qui bouge, parce qu'il me semble qu'au XXIe siècle, c'est une forme d'expression artistique parfaitement incontournable.
Mmh. Il est regrettable que Schoenderfer n'ait pas embarqué, soit d'une autre armée.
C'est mon grand regret que Pierre Schoenderfer ne soit pas peintre de la marine. Il a, je crois savoir qu'il y a quelques années, il y a de longues années déjà, il aurait été candidat et que justement mes confrères de l'époque n'avaient pas su comprendre que ce qu'il faisait était une forme d'art. Moi je sais que jeune homme, Pierre Schoenderfer avait beaucoup compté pour moi à partir de la 317e section. Bon, il est trop tard, on ne refait pas l'histoire, mais si le corps des peintres de la marine évolue comme je le souhaite, il me semble que Pierre Schoenderfer aurait une figure de membre d'honneur tout à fait à sa place.
Donc ces peintres exposent, les peintres officiels de la marine n'exposent pas au salon de la marine ou exposent-ils ?
Si, les peintres de la marine exposent au salon de la marine, c'est même leur seule contrainte.
Oui, j'allais vous le demander.
Voilà, nous n'avons pas d'autre obligation, sinon de présenter une œuvre. Autrefois c'était 2, maintenant c'est 1 pour des raisons de place. À côté de cela, nous n'avons pas de contraintes, on n'est pas obligé d'embarquer. Quand on embarque et que l'on travaille, le travail reste à nous. Alors évidemment, on peut le donner en remerciement, mais c'est une affaire de liberté individuelle. Pourquoi une œuvre par peintre de la marine au Salon de la Marine ? Tout simplement parce que c'est un vrai salon qui comprend à peu près 200 exposants. C'est-à-dire que si on enlève la quarantaine de peintres de la marine, ça laisse la place pour une 160 d'artistes, ce qui est tout à fait important et auquel nous tenons. Il faut que ce salon reste vivant. Et puis c'est le vivier dans lequel nous recrutons éventuellement, parce que ce n'est pas non plus une obligation, de futurs peintres de la marine.
Tous ces peintres, tous ces artistes, je crois savoir qu'il y a environ 500 à 600 candidats, 600 candidats tous les 2 ans.
À peu près.
Et tous ces artistes sont des artistes concrets. Ils ne sont pas des abstraits. Donc, il y a une peinture un peu particulière ou...
Permettez-moi de nuancer la chose. Oui. Il y a parmi nous, effectivement, beaucoup de peintres classiques. On va les qualifier de post-impressionnistes. Ce sont des peintres qui travaillent beaucoup sur le terrain, hein, qui donc sont dans cette mouvance-là. un travail immédiat, la réalité prise, saisie au vif. Mais il n'y a pas que ça. Pour ma part, je suis plutôt hyper réaliste, donc un travail beaucoup plus long, un travail d'atelier. Il y a avec nous Richard Texier, que certains qualifient d'abstrait, mais qui ne l'est pas du tout, qui est, je dirais, symboliste, sauf que le symbolisme est une école et qu'on ne saurait en aucun cas le rattacher à cela, mais qu'il travaille sur le symbole. Il y a aussi Titouan Lamazou qui se sert, même s'il il fait beaucoup de dessins, de peintures, mais qui se sert beaucoup de photos qu'il mêle à ses travaux. Donc, vous voyez, les formes d'expression sont variées. Dans le passé, il y a eu des peintres comme Roger Besombe, qui était d'une figuration extrêmement libre. Voilà. Bon, là aussi, permettez-moi de rebondir et de vous citer les grands anciens avant que vous me posiez la question.
Voilà,
Donc, je parlerai de Félix Ziem, je parlerai de Paul Signac, je dirai aussi Albert Marquet, je dirai Charles Lapic. Voilà pour les plus connus.
Et Marin Marie ?
Alors, Marin Marie, Albert Brenet, voilà, ça, ce sont deux figures incontournables des peintres de la marine du XXe siècle, parce que, contrairement à ceux que j'ai pu citer, ce sont vraiment des peintres reporters, des peintres voyageurs, particulièrement Albert Brenet, qui avait beaucoup travaillé pour l'illustration notamment, et qui donc ont parcouru le vaste monde et saisissaient au vol tout ce qui leur paraissait intéressant, et notamment ce qui était la modernité de leur temps.
Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde tout le panorama de tous ces peintres, car ils sont quand même très nombreux depuis maintenant un siècle et demi, voire plus d'ailleurs.
Presque deux siècles.
Presque deux siècles. Nous avons une histoire de la peinture figurative avec ses évolutions. Je pense par exemple à Claude Schur, qui est un cas particulier, enfin qui n'est pas un cas particulier, mais qui est une expression vraiment des années 50.
Claude Schur a une peinture de synthèse qui traverse un petit peu les époques. Elle, effectivement, ça a été une des figures de la création avec son atelier bien connu. Dans les années 70, mais je crois que c'est une peinture qui, si, certes, a été marquée par son époque, mais qui garde quelque chose d'un petit peu intemporel.
Oui, ceux qui embarquent à bord de la Jeanne d'Arc et qui sont accueillis au carré des officiers subalternes prennent leur déjeuner face à une fresque qui doit représenter la France signée par Claude Schur.
Ben, je ne peux rien vous cacher. Vous avez d'autres exemples à me citer?
Oui, merci. Non, je citerai volontiers aussi le cas d'un autre peintre qui est particulièrement sympathique, c'est Luc Maribel, qui a lié une fantaisie à un talent de croqueur, je ne sais pas si le mot est exact, et qui allait plus loin encore, même en fabriquant avec toute sa famille des tapisseries, faisait des compositions. Et Luc Maribel a été directeur du musée de la Marine pendant une certaine époque, pendant un certain temps.
Luc Maribel a eu plusieurs vies, puisqu'il a d'abord été officier de marine, qu'il a quitté avec le grade de capitaine de frégate. Et puis ensuite, il a travaillé dans la publicité avec deux de ses amis. Ils s'appelaient les 3B. Pardonnez-moi, j'ai un oubli sur le nom des deux autres. Ensuite, effectivement, il a été directeur du musée de la Marine pendant 6 ans, je crois. Et puis, après, il s'est retiré de la vie active, si l'on peut dire, quoique sa vie ait continué à être très active. Et c'est à ce moment-là qu'il faisait les tapisseries, parce que malheureusement, sa main ne suivait plus et il était contraint à trouver une autre technique. Tout comme Matisse a fait des papiers découpés à la fin de sa vie, parce que ses mains n'avaient plus l'agilité suffisante pour retenir le crayon comme il savait le faire. Tout comme Renoir, à la fin de sa vie, se faisait attacher ses pinceaux parce que l'arthrose avait raidi ses doigts et ainsi de suite.
Donc, les peintres de la marine sont essentiels à la marine parce qu'ils les accompagnent, comme vous le disiez très justement. J'imagine qu'il y a encore plein de nouveautés, plein d'embarquements, d'embarquements de toiles à réaliser. Est-ce qu'il va évoluer encore ce groupe ?
le monde est une immense galerie, c'est-à-dire que les sujets sont infinis et ils sont par définition inépuisables. J'aimerais que le corps des peintres de la marine soit lui aussi infini et que on parlait de deux siècles, donc dans deux siècles, il y ait quelqu'un à ma place qui continue à parler des peintres de la marine. Alors évidemment, on ne peut pas augurer de l'avenir. Mais je constate avec plaisir que c'est un corps extrêmement vivant, que la volonté d'en faire partie, la volonté de le faire vivre est là. Je ne peux que souhaiter le développer, le rendre plus connu. Une de nos raisons d'être, c'est aussi de témoigner de la mer dans des endroits où on ne la connaît pas. Donc, il nous arrive de faire des expositions au centre des terres en France et on envisage même un séjour de travail, ce que nous faisons une fois par an, au moins une fois par an, sur les côtes de France. Je l'envisage très sérieusement dans un ou deux ans à Souillac, vous voyez, donc vraiment au cœur des terres.
Bien, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.